J'aimerais lire trois passages des Écritures. C'est surtout le premier passage qui va être le support à tout ce qui va être dit. Mais d'abord, donc, le premier passage, c'est dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Il est dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Maintenant, j'aimerais que dans le même évangile, nous lisions le chapitre 28, passage très connu, Matthieu 28, versets 19 et 20. Lorsque Jésus va laisser ses disciples avec un mandat, et il va leur dire ceci, Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et enfin, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Donc celui, c'est Jésus-Christ en fait, qui parle. Et je vais m'attarder un peu sur ce passage pour commencer, parce qu'après je n'y reviendrai pas. Jésus dit ceci au sujet de cette église: « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Donc il peut y avoir des œuvres bonnes ou mauvaises, mais dans le contexte, ça sous-entend que les œuvres sont bonnes, parce qu'après il est parlé du travail et de la persévérance. Donc Jésus voit ce qui se passe dans cette église. Il y a des œuvres, un travail, une persévérance. « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Ça veut dire que c'était une église qui discernait. Je rappelle que le Nouveau Testament n'était pas écrit, et des fois, pour discerner un bon enseignement d'un autre, ce n'était pas toujours évident. Il y en a qui se prétendaient apôtres en disant « j'ai connu Jésus à Jérusalem » et les gens à Éphèse ne pouvaient pas vérifier, ils n'avaient pas la photo des apôtres. Donc ils avaient discerné qu'il y avait des hérétiques, des gens qui essayaient de s'infiltrer. Il est dit aussi que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Pas beaucoup d'églises peuvent s'honorer de cela, de souffrir pour le nom de Jésus-Christ, et on voit que cette église avait accepté. Et que tu ne t'es point lassé. Donc si on s'arrête là, on peut dire que tout va bien. Quelle église n'aimerait pas être décrite de cette manière-là? Néanmoins, il est dit, verset 4, « Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Alors déjà, on a un peu une idée là. C'est qu'il est parlé de l'amour. Or, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais l'amour, là, c'est Jésus-Christ. C'est qui? Le premier qui nous a aimés, c'est Dieu. Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc le premier amour, c'est Dieu. Et il est dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire que il devenait peut-être un peu prétentieux, qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de cet amour-là. Cet amour qui pardonne, cet amour miséricordieux, cet amour patient. Et peut-être qu'ils devenaient un peu comme les pharisiens. C'est-à-dire qu'ils travaillaient beaucoup, ils étaient persévérants, ils faisaient des bonnes œuvres, faisaient des choses très bien, ils acceptaient la persécution. Mais peut-être que d'être ainsi les rendait peut-être un peu prétentieux. Et c'est là où on commence à oublier d'où nous sommes tombés. Et donc il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alors, vous voyez, il y avait des œuvres qui étaient bonnes apparemment, mais les premières étaient oubliées. Alors, on ne sait pas exactement lesquelles, mais en tout cas, elles sont liées au premier amour. à cette joie du salut, ce zèle, cette volonté d'annoncer l'Évangile. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et ça, ça parle de la place du Saint-Esprit dans l'Église. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut se retirer d'une assemblée, dans le sens où c'est plus le Saint-Esprit qui conduit cette assemblée. On a l'exemple après au chapitre 3, avec l'église de Laodicée, où il est dit que Jésus se tient à la porte de cette église, il frappe, il aimerait rentrer, mais on ne le laisse plus rentrer. Et pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet, alors qu'encore une fois, nous sommes ensemble dans une phase de transition, où se posent des questions sur l'organigramme, le travail, l'emploi du temps, les choses à faire, les ministères. Mais songeons peut-être, et je vous donnerai toute l'attention de poser toutes les choses, d'être vraiment concentré, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de bruit. Mais soyons concentrés sur le premier amour. La question, c'est est-ce que nous sommes encore une église du premier amour ? Et ce qui m'a interpellé et ce qui m'a fait penser à cela, c'est qu'on a eu une soirée vendredi soir à la maison, une partie de crêpes, comme on a souvent l'occasion de l'organiser, où les gens viennent, sont les bienvenus. Mais là, on était en petit comité. Pourquoi ? Parce qu'on a envoyé, vous avez reçu notre SMS pour vous dire presque de pas venir, hein, comme il y avait des microbes à la maison. Donc, on était en petit comité et on a parlé de façon très intéressante. J'ai appris des choses d'ailleurs que je ne savais pas. On a parlé un peu du début de l'Église, comment les gens s'étaient convertis. J'ai appris quelque chose à ton sujet d'ailleurs, l'homme à bicyclette. Voilà, donc voilà, j'étais pas au courant de cette histoire. Et alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez voir Yann à la fin du culte, l'homme à bicyclette, il vous expliquera tout ça. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a des histoires à raconter aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des histoires à raconter aujourd'hui, du même type ? Des gens qui se convertissent, des miracles qui s'opèrent, des rendez-vous divins, des choses merveilleuses. Et je réfléchissais et je me disais, en fait, une église vivante, c'est une église qui en est toujours à ses débuts. C'est-à-dire qu'une église où il y a toujours une occasion d'annoncer l'Évangile à quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile. Et certains vont rejeter cet Évangile, d'autres vont l'accepter, mais il va y avoir un début dans la vie de cette personne. Et ce début, on va être les témoins de cela. Et parce que l'Église, corporellement, est témoin des débuts d'un nombre important de personnes, cette Église reste vivante. Si on commence à être une Église où on se raconte des souvenirs, des débuts, parce qu'on n'a plus grand-chose à raconter aujourd'hui, on peut se poser des questions. Et c'est ce qui se passait au temps de Jésus, c'est-à-dire que ce n'était pas l'Église encore, mais c'était le peuple juif, les pharisiens en l'occurrence, les scribes, qui avaient cette vision du judaïsme qui était une forme d'exclusivité. C'est-à-dire que nous sommes le peuple élu, et en plus, parmi le peuple élu, eux étaient ceux qui savaient, les autres ne savaient pas. Et donc, il y avait une forme d'exclusivité. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas que Jésus puisse prêcher, parce qu'ils ne savaient pas d'où il sortait. Ils comprenaient encore moins que les apôtres puissent prêcher, eux qui n'étaient pas de leur école. Parce qu'il y avait comme un clan. Mais il peut se passer la même chose dans nos églises. Si on lit Matthieu chapitre 9, et je relis un peu à partir du verset 35, il est écrit ceci, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages ». Et rappelez-vous, Matthieu 28, il dit à ses disciples d'aller de par le monde. Si on réfléchit un tant soit peu, on s'aperçoit que Jésus, sachant qu'il était pour un moment très court dans son ministère, et Jésus ne bâtissait pas une église encore. L'église va être baptisée, va être construite à partir de la Pentecôte. Mais c'est quand même notable de remarquer que Jésus-Christ n'avait pas un ministère local. Il n'avait pas une adresse particulière où il enseignait. Pourquoi ? Parce que Jésus ne voulait pas que son message ait une forme d'exclusivité, mais au contraire, d'inclusivité. Il voulait inclure le maximum de gens. Et ce qui fait qu'il allait dans les villes, dans les rues, dans les carrefours, Mais il allait aussi dans les villages. Là, ce n'est pas dit dans le passage, mais on sait par ailleurs, dans Jean ou ailleurs, qu'il allait dans les maisons même. Donc il y avait petit comité, grand comité, foule, montagne, le sermon sur la montagne, on connaît. C'est-à-dire que Jésus allait là où il pouvait pour rencontrer des perdus. C'était son ministère. Il avait pourtant son groupe d'amis. Il avait ses disciples, alors certains l'ont abandonné en cours de route. Après, il avait les 12 pendant près de 3 ans. Mais on voit qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il enseignait dans les synagogues, qui n'était pas forcément l'endroit le plus ouvert à sa prédication. Prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous savez, je vais m'arrêter là pour l'instant au niveau de ce texte, je vais donner quelques commentaires, mais le nombre de fois où nous voyons Jésus qui est ému de compassion. Là, il est ému de compassion parce qu'il voit des gens qui n'ont pas de berger. On voit la même chose après dans Luc, vous savez, quand il est à l'écart et qu'il y a la multiplication des pains. C'est la même chose. Il est ému de compassion. C'est-à-dire que il aurait très bien pu se enseigner et se faire un clan. Mais il avait une vision plus large. Parce qu'il savait évidemment qu'il allait mourir pour les péchés du monde entier. Que le salut était pour tout le monde. Le problème, quand on est dans une église qui date, c'est qu'on peut commencer à devenir exclusif, et pas méchamment, pas qu'on dise « les perdus c'est des mauvais, je les rencontre pas, je veux être séparé d'eux », c'est pas ça. C'est juste de vivre petit à petit une forme de christianisme exclusif où on est entre nous. On a nos petits amis, on a nos petits restaurants, on a nos petits repas de famille, on a nos petits clubs de jeunes, on a nos petites répétitions de louanges, on a notre petite fabrication de livrets, on a notre institut biblique même. On a des œuvres qui sont bonnes, mais on peut oublier le premier amour. Et ce qui fait que on n'a plus tellement d'histoires à raconter concernant le salut en Jésus-Christ. Là, qu'est-ce que fait Jésus? Il prêche la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. Cette bonne nouvelle. Mes amis, faisons attention à garder ce cap de prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. Je ne parle pas d'aller à l'évangélisation le samedi après-midi, une fois de temps en temps, et c'est bien de le faire. Mais pas pour se donner bonne conscience et de se dire on est une église qui évangélise. Qu'en est-il de mon collègue de travail? Qu'en est-il de mon voisin? Qu'en est-il de mon cousin? Qu'en est-il de mes amis? Alors, évidemment, je peux vivre dans une forme de crainte et de me dire, oui, mais quand même, il faut y aller doucement. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Est-ce qu'on est fier du message que nous voulons annoncer? Est-ce que nous sommes fiers de nos frères et sœurs en Christ? Est-ce que nous sommes fiers du corps de Christ? Par exemple, des fois, ce n'est pas toujours facile d'annoncer l'Évangile à nos proches, on le sait. Mais est-ce que nous établissons des points de contact? Par exemple, on peut très bien inviter chez soi un collègue de travail avec un frère dans l'église ou une sœur dans l'église. Comme ça se fait autrement, je veux dire, combien de fois il y a des repas qui sont organisés en disant « tiens, j'invite, je fais un repas chez moi, j'aurai mon voisin qui viendra, puis j'ai un collègue de travail » et on mélange, on brasse. On fait ce qu'on appelle du social, un peu. Mais est-ce qu'on a nos petits repas entre croyants, où on a passé une bonne soirée, et puis on a nos relations sociales par ailleurs, déconnectées, mais on ne fait pas de pont, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas l'annonce de la bonne nouvelle, il n'y a pas la fierté d'être chrétien, il n'y a pas même la peur, peut-être, d'être rejeté à cause de ça. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la compassion qui nous motive? Est-ce que c'est de la compassion que de vivre ainsi? Jésus fut ému de compassion parce que les gens n'ont pas de berger. Et ce monde, aujourd'hui en France en particulier, on ne peut pas dire que ce sont les religieux qui posent le plus de problèmes. Parce que la religion a été remplacée par le laïcisme, l'athéisme, la philosophie, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous pensez que les Français ont des bons bergers? Est-ce qu'on a de la compassion pour ces gens qui pensent bizarrement, qui suivent n'importe quel train de la mode? Est-ce qu'on a compassion? Est-ce qu'on a conscience que l'âme est immortelle et que pour l'éternité, l'âme va aller quelque part? Pour l'éternité. Est-ce que nous avons conscience que Dieu a peut-être permis que ces âmes soient proches de nous pour que nous soyons un pont avec la bonne nouvelle, un lien avec la bonne nouvelle? Vous savez, la brebis a ceci de particulier, il y en a d'autres animaux comme elle, mais c'est particulier à la brebis, c'est qu'elle ne peut pas se défendre. Alors là, une brebis, elle voit un loup, elle voit n'importe quel animal plus fort qu'elle, la brebis, elle ne va pas mordre, elle ne va pas donner un coup de tête. La brebis, elle ne va que crier, elle ne se défend pas. Mais spirituellement, c'est l'état dans lequel les gens sont en réalité. Ils peuvent avoir la connaissance, l'instruction, l'argent, la suffisance, la prétention, tout ce que vous voulez. Ce sont des gens qui n'ont pas de berger et qui ne peuvent pas se défendre devant l'éternité qui vient. Ils n'auront aucun argument. Vous savez, la compassion qu'avait Jésus, le mot en grec, parle d'éprouver une profonde sympathie pour quelqu'un. C'est-à-dire, il voyait cette foule ou il voyait d'autres personnes, on en parlera après, il y a une sympathie qui se dégage. Au-delà de la vue, au-delà des apparences, au-delà des circonstances, au-delà du milieu social, des castes, tout ce que vous voulez, Jésus voyait à chaque fois une âme. Une âme. Une personne qui vit ses solitudes. Une personne qui vit ses peurs. Une personne qui doute. Une personne qui est peut-être séduite. Mais c'est une personne qui, dans son être intérieur, vivra pour l'éternité et qui, pour l'instant, ne connaît pas la vie éternelle. Elle est là, cette vie. Elle existe. Vous savez, le christianisme n'est pas pour nous. Il est pour tout le monde. C'est ça qu'on doit avoir en tête. Le christianisme est pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'au bout d'un moment, on est un groupe, on se rassemble, on se connaît, on est très content, on remplit la salle. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir une vision exclusive, inclusive. Et alors après, ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas l'évangélisation, mais ça m'a béni. Là, il y a une personne qui m'a envoyé un SMS ce matin pour me dire qu'elle avait acheté son billet pour aller en Amérique du Sud, parce qu'il y a un voyage qui est programmé à la fin de l'année. Et je réalisais, je dis, Seigneur, quand même, on est entre 60 et 80 dans l'église, il y a déjà 8 personnes qui m'accompagnent pour ce voyage, enfin 7, moi, avec moi ça fait 8, ça fait 10% de l'église qui va aller à l'autre bout du monde. C'est quand même extraordinaire ça pour une petite église locale. Je dis ça parce qu'ils vont être bénis les gens là-bas, de voir arriver un groupe de Français, leur rendre visite. Donc là, il s'agit de chrétiens. Mais c'est ça, c'est d'inclure aussi. C'est-à-dire, on n'a pas une vision étriquée des choses, on est prêt à dépenser de l'argent, du temps, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'a pas l'appel pour le faire, la volonté de le faire, ça, c'est pas le problème. Mais c'est de se dire, voilà, on est une église locale, mais il n'y a pas que nous, il y a des frères et sœurs à l'autre bout du monde, on va aller les visiter, on va aller les bénir, et on va recevoir d'eux. Il va y avoir un échange. C'est pas uniquement mon petit monde où j'essaye d'assurer que tout aille bien dans la semaine. J'ai mes convoitises que j'essaye parfois de mettre de côté ou que parfois dans lesquelles je tombe. Il y a mes problèmes financiers, mes problèmes de maladie et ça c'est vrai que c'est compliqué. J'ai mes enfants à élever, ma maison à payer. Bon, et puis je vais aller au culte 2 heures par semaine, prendre un bol d'air frais et puis je repars. Mais il y a, mes amis, c'est pas que ça. Et parfois, vous avez peut-être des problèmes dans votre vie parce que vous êtes peut-être exclusif dans votre christianisme. Il n'y a pas d'inclusivité. Il n'y a pas cette vie de dire « venez, venez, venez ». Venez entendre la parole de l'Évangile. Venez écouter celui qui a eu les mains et les pieds percés, Jésus-Christ. Lui seul peut vous guérir. Lui seul a de la compassion. Lui seul vous aime d'un amour éternel. Lui seul est la solution. Lui seul, Jésus, 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 Jésus. On va parler de Jésus. Et je veux communiquer Jésus. Mais toi, tu l'as déjà entendu. Ok, je te parle plus. Je parle à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Vous voyez, c'est de sortir. Élargissez vos tentes, vous dit le prophète Ésaïe. Élargissez vos tentes. Alors, on a une tente, on a mis les pieux, la tente est... Ouais, mais on va tirer encore un peu plus. On prend le pieu et on tire encore un peu plus. Et on élargit nos tentes. Et ça, c'est une église qui commence toujours. C'est une église qui n'oublie pas son premier amour. C'est une église qui a compassion pour ceux qui n'ont pas de berger. Vous savez, Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Waouh ! Les péchés du monde entier. Waouh ! Le pire des pécheurs dans le quartier, là. Le pire. On ne sait pas ce qui se passe derrière des murs à 200 mètres. On peut imaginer. On peut, à 200 mètres, là, la nuit, il y a des quarts d'Albanais avec des prostituées remplies et il se passe des choses horribles. À 200 mètres. Et Jésus est mort pour ces gens. Il est mort pour les prostituées, il est mort pour les clients, il est mort pour les proxénètes. Est-ce qu'on est prêt? Et ça ne se fera pas uniquement par le responsable ou les responsables de l'Église. Nous sommes tous responsables. Vous êtes tous responsables. Est-ce que quelqu'un n'a pas envie de se lever pour créer une association pour donner de l'aide aux prostituées, pour leur annoncer l'Évangile? Ou pour quelqu'un qui se lève pour dire « je vais monter une assoc pour une banque alimentaire » ou pour aider dans tel ou tel domaine, tout en annonçant l'Évangile. Pas faire que du social, annoncer la vie éternelle aussi, même si ça ne plaît pas. On n'a pas honte de l'Évangile. Est-ce qu'on ne va pas monter une assoc pour, je ne sais pas, être écrivain public, aider les gens, ils sont perdus avec les lois, les aides, etc. Allons-y. Est-ce que vous n'avez pas envie pour les hommes parfois d'être un berger? Est-ce que vous avez compassion pour les brebis? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous lever et de dire « moi j'ai envie de prêcher l'Évangile, mais je ne sais rien, j'ai peut-être peur, je suis peut-être timide, eh bien je veux apprendre. Je veux apprendre comment évangéliser, je veux apprendre comment prêcher, je veux connaître les Écritures, je veux savoir comment on fait une introduction, une conclusion dans un message, pour que le message puisse passer dans les oreilles des gens. Pas simplement dire « Dieu sera fidèle, chacun son appel et on reste chacun chez soi ». Est-ce qu'on est exclusif? Soyons inclusifs, soyons prêts, perdons notre vie. Allons à l'autre bout du monde. Est-ce qu'il y en a qui seront prêts à quitter cette église et se dire, je ne sais pas, moi je déménage à Nevers et je vais commencer une église à Nevers. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Pour montrer qu'il y a des perdus là-bas aussi. Il y a des perdus. Mais là, ça veut dire démissionner de son travail, rechercher un boulot, s'attendre à Dieu, être à genoux, demander à la famille de suivre, chercher un nouvel appartement, avoir moins d'amis, plein... Ah, on quitte son église, bah oui, là, on est un petit groupe de 3 ou 4. Et est-ce qu'il y a un célibataire ou un autre couple qui l'accompagnera? Et on forme une équipe, on implante une nouvelle église et on redonne ce qu'on a reçu pour que d'autres vivent la même chose, la communion fraternelle, l'institut biblique, une formation, que des hommes soient équipés, que des couples soient guéris, que des enfants soient éduqués correctement, selon la piété, selon la grâce, selon la vérité. Mais ce n'est pas un seul homme, c'est pas... Jésus lui-même a confié ce mandat à des hommes et des femmes. D'accord ? Lui a fait ça. Donc, nous, à notre niveau, pasteur compris, ce n'est pas un seul homme qui peut faire ça. C'est tout le monde. Tout le monde peut se lever. Tout le monde. Il y en a qui peuvent faire un institut public, ils ont un papier sur un mur, et quelle est leur vie aujourd'hui ? Zéro. Ça veut rien dire. La clé, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est pas même pas en termes d'œuvre, c'est Seigneur, donne-moi ta compassion. Waouh, la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Vous savez, nous on n'est pas appelés peut-être à aller de village en village ou de ville en ville, mais dans notre emploi du temps, dans nos activités, ouvrons les portes, allons. Invitons, faisons des connexions, annonçons l'Évangile, acceptons d'être formés, acceptons d'être disponibles. Moi, je n'ai pas de solution miracle pour vous. Chacune, vous avez chacun votre vie. mais juste de se dire, Seigneur, est-ce que j'ai des choses à raconter sur les miracles de la foi en ce moment? Qu'est-ce que j'ai vécu l'année dernière à ce niveau-là? À qui j'ai témoigné? Alors peut-être, des fois, ça va être un témoignage de refus. Hein? Faut l'accepter. Mais est-ce qu'il y a une opportunité de grâce communiquée par ma bouche? Et dans mes prières aussi. C'est fou parce que quand on voit les situations, regardez, il y a Marc 1,41. N'allez pas regarder, vous lirez chez vous, mais on voit, vous savez, c'est la guérison du lépreux. Le lépreux qui veut s'approcher de Jésus. La lèpre nous parle de la souillure du péché. Le fait que cette personne, elle peut pas être en contact avec les autres. Elle est isolée à cause de sa lèpre. Et c'est ce que le péché fait. Le péché isole les gens. La loi interdisait aux lépreux de s'approcher de la foule. Le lépreux devait être loin. Et puis quand il avançait, il marchait dans les routes de campagne, il devait crier « Impur, impur !» Sous-entendu, « Éloignez de vous !» Il vivait dans des grottes. Et Jésus aurait très bien pu lui donner la loi en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? La loi de Moïse dit que tu dois t'éloigner. » Et Jésus fut ému de compassion pour ce lépreux. Une fois encore. On voit cette femme en Luc 7,13. Vous savez qu'elle a perdu un fils. Et là, il est ému de compassion et il réveille l'enfant. D'ailleurs, entre parenthèses, il fait le même miracle que Élie, donc c'était aussi pour attester son ministère. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, combien, je dirais, de veuves, pas forcément veuves littéralement, mais de femmes seules, de femmes qui ont des difficultés. À l'époque, une veuve, c'était une personne qui était potentiellement pauvre, parce que le mari travaillait dans les champs, travail de force, donc la femme, elle, sans mari, elle devenait très vulnérable. Et donc son enfant, en plus, pouvait être celui qui allait remplacer le mari. Donc là, elle souffre de la perte de son enfant, mais en plus, elle perd un ouvrier. À l'époque, ça voulait dire ça. C'est-à-dire qu'elle risquait d'être encore plus pauvre qu'elle n'était. Mais il y avait cette douleur, il y avait cet avenir sombre pour cette femme. Mais on voit ça en permanence, des femmes seules aujourd'hui. Et on en a dans cette église. Des femmes qui ont fait des choix pour rester avec Dieu et pas faire de compromis dans certains domaines, ou d'autres qui ont fait des erreurs, qui élèvent leurs enfants, il y a eu des divorces. Il y a tout. Combien de femmes seules sont là aujourd'hui dans nos églises? Elles ont besoin de bergers. Elles ont besoin de personnes qui les aident. Et l'église est un moyen. L'église est un moyen, est un secours. On a aussi les deux aveugles, vous savez, en Matthieu 20-34. Guéris-nous. Et Jésus dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Rends-nous la vue. Et Jésus, il est dit là encore, il fut ému de compassion. Aujourd'hui, vous savez, bien sûr, on peut voir que politiquement tout va mal selon les critères bibliques. On peut penser aux problèmes d'éthique et on peut s'énerver de voir le monde dans lequel nous sommes. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui permettra aux gens aveugles de voir? C'est Christ. Il faut leur annoncer Christ. C'est pas l'éthique. On va pas gagner dans le domaine de l'éthique pure par des arguments. On va pas gagner par la connaissance. On va pas gagner par notre intelligence. On va gagner parce qu'on va communiquer la vie. Et c'est comme ça que les gens vont changer leur façon de voir les choses. C'est la solution. Christ en nous, l'espoir de gloire. Et donc, le péché, et donc la lèpre, elle peut être guérie par Jésus-Christ. L'aveuglement spirituel peut être éradiqué par l'annonce de l'Évangile. À un moment donné, Matthieu 15, 32, il rencontre des sourds. Ils ne peuvent pas entendre. Qu'est-ce que fait Jésus? Il est ému de compassion devant les sourds. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est guéri. Il y en a aujourd'hui qui sont peut-être sourds à la bonne nouvelle. Mais ayons compassion pour eux quand même. Ne faiblissons pas dans cette volonté qu'a Jésus de dire « Allez partout dans le monde », mais donc forcément, en tout cas autour de nous, et faites de toutes les nations des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il y a une promesse, d'ailleurs qui montre que ce n'est pas qu'aux apôtres qu'il a dit ça. Il dit « Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus sera toujours avec nous quand on annonce la bonne nouvelle. Il sera toujours avec nous. Parfois on se dit « Où est Dieu ? Qu'est-ce que je vis avec Dieu ?» C'est de la routine. Au bout d'un moment, même cette nouveauté de cette salle, ça deviendra une habitude. Et qu'est-ce qu'il faudra faire ? Essayer de trouver un nouveau spectacle que je me teigne en rose ou je me mette une crête ? Je ne sais pas. Mais c'est un peu ça dans les églises aujourd'hui. Si les gens... Pourquoi il y a de la routine ? Pourquoi il faut que ça soit flashy ? Il faut que ça soit comme à la télévision ? Il faut qu'il y ait de la musique ? Pourquoi ? Parce que le centre d'intérêt, c'est d'être ensemble. Et donc ensemble, au bout d'un moment, on s'ennuie. Mais quand vous voyez une âme se convertir, on s'ennuie jamais. Quand vous avez des gens qui vous posent des questions parce qu'ils connaissent pas la Bible, mais qu'ils ont soif d'apprendre, on s'ennuie jamais. Quand il y a des gens qui se remettent en question, qui vous demandent des conseils, qui vivaient dans le péché, qui vivaient dans l'aveuglement, qui vivaient sans aucune vision, et d'un seul coup ils rencontrent un frère, une sœur, et toi tu connais Jésus-Christ, et ça vient pas d'eux, c'est le Saint-Esprit qui fait quelque chose en eux, et là vous êtes là, vous répondez à leurs questions, il y a quelque chose, ils disent donnez-moi à boire, donnez-moi à boire, et là vous dites mais ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Ma vie n'est pas que la sono soit belle, que le son soit bon, que la chorale soit une tune, que le prédicateur, on se régale avec ses prédications. Ça ne donnera pas la vie, ça. Jésus est mort à la croix et il a compassion pour les perdus. Et il a donné ce mandat à l'Église. N'oubliez pas votre premier amour. N'oubliez pas votre premier amour. Et vous aurez encore des choses à raconter. Des miracles dans la vie des gens, des choses qui vont au-delà de son petit train-train de chrétien où là, je donne ma dîme, bon, ça c'est bon, j'assure. Là, je fais ma petite visite hebdomadaire, ça assure. J'ai vu, j'ai passé un bon temps. Tout ça, c'est bien réglé, mais il n'y a pas toujours la croix. Il n'y a pas toujours la croix. Il y a un club, mais il n'y a pas la croix. Et ce fait qu'à un moment donné, il faut bouger. Allez voir, allez dans la rue, discutez avec des gens. Invitez vos collègues, parlez de l'espoir que vous avez. Tu sais, je voulais te dire que, voilà, moi je suis ce que je suis au travail, etc. Mais je voulais vraiment te dire que un jour j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie et je voulais te le dire. Simplement parce que tu es un ami et je voulais que tu le saches. T'en fais ce que tu veux, mais tu es un ami, je voulais que tu le saches. J'ai rencontré Jésus-Christ. Tu vas peut-être plus me parler maintenant, mais moi je t'aime et je voulais t'annoncer ce message. Et si tu as des questions, si tu veux venir voir, viens à un culte. Si tu veux, j'invite mon pasteur à manger un jour, ou j'invite un frère, etc. Juste de prendre des risques, de faire des mélanges, de dire il faut que la bonne nouvelle elle passe. Il faut qu'elle soit transmise, il faut qu'il y ait un relais qui se fasse. C'est ce que Jésus... communique, vous savez, dans la parabole du bon samaritain. C'est ce qui s'est passé avec les pharisiens. Dans la parabole, on voit le pharisien qui voit un homme là par terre qui s'est fait tabasser, on ne va pas le toucher. Et le samaritain, lui, va s'occuper de cet homme qui est par terre. Qui est le prochain de l'autre ? Le religieux ou le samaritain ? Parce que pour les pharisiens, les samaritains, c'était des traîtres. C'était ceux qui avaient abandonné certains livres de l'Ancien Testament. Ils n'acceptaient que le Pentateuque. Ils avaient été déportés par les Assyriens. C'était pas des vrais Juifs. C'était des Samaritains. Et oui, mais c'est le Samaritain qui prend soin de celui qui est à terre. L'Église doit se lever, mais l'Église, c'est des âmes, c'est nous. C'est pas simplement l'organisation d'une association. Vous avez aussi la même idée en Matthieu 18, vous savez, de la parabole de la dette qui est remise. On a une grande dette, et la dette nous est remise, et puis après, il y a les petites dettes. Donc, dans le contexte, ça parle évidemment du pardon qu'on doit se manifester les uns avec les autres, mais on peut aussi l'appliquer. C'est que, est-ce qu'on est prêt à annoncer cette grande dette qui a été remise aux autres ? C'est-à-dire de redonner ce qu'on a reçu. Vraiment, il y a une bénédiction à vivre ça. Vous savez, une église locale, idéalement, c'est une équipe qui va avoir cet objectif d'atteindre les perdus. Deux choses. Louer Dieu excusez-moi, louer Dieu, c'est-à-dire le glorifier de la meilleure façon qui soit, par nos louanges, par l'élévation de la parole, par la communion fraternelle, on s'aime les uns les autres, c'est une manière de savoir qu'on connaît Christ. Donc tout ça, c'est un des buts de l'Église. Donc ça, c'est, je dirais, le côté interne à l'Église. Et puis il y a le côté externe qui annonçait la bonne nouvelle. Si on annonce que la bonne nouvelle en sous-estimant la communion fraternelle, c'est pas équilibré. Mais si on regarde que ce qui est en interne, si on s'occupe de ce qui est en externe, c'est pas équilibré non plus. Il faut être inclusif, inclure des gens, inclure. Pour ça, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure dans l'autre local, mais quand on a fait des annonces, je parle au nouveau là, et qu'il y a quelque chose sur le planning et qu'on l'annonce, c'est pour tout le monde, hein. Il n'y a pas d'exclusivité. Il ne faut pas être membre depuis 3 ans. Il ne faut pas passer un examen. S'il y a une étude biblique dans une maison, vous pouvez y aller. Si vous, il y a un temps en dehors des cultes, c'est ouvert à tout le monde. On essaye d'être inclusif. Vous savez, il y a des voix qui nous disent que l'évangélisation, c'est pas bien. Surtout, il ne faut pas y aller trop fort. Et je sais qu'il faut une forme de sagesse, on est d'accord avec ça. Mais l'Évangile, c'est quand même le zèle. Hein. Il y a un zèle. Je veux dire, on est peut-être devant le Jourdain, et il y a les géants en face qui nous disent « Non, 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 nous on n'évangélisait pas là, c'est notre territoire. Là, vous n'avez pas le droit d'évangéliser. Là, cet ami va dire « Non, 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 tu n'as pas le droit de me parler. » On ne lui a jamais parlé, mais c'est ce qu'on croit qu'il va nous dire. On voit des géants. Il faut traverser le Jourdain parfois. Et là, il y a le terrain de la bénédiction. Il faut marcher par la foi, ouvrir nos bouches pour prier, intercéder et pour annoncer. Vous savez, en Marc 15, vous savez, c'est le monsieur qui était dans les cavernes, là, qui avait une légion de démons, et qui se meurtrissait, etc. Il est guéri. Et le gars, ça c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que il veut aller avec Jésus après. Le gars, il a été exorcisé, il n'a plus de démons, il a tout son sens, et il a envie d'être avec Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Regardez au verset 16. « Jésus ne le lui permit pas de le suivre, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Ou compassion, si vous voulez. C'est pas le même mot en grec, mais en tout cas, c'est la même... c'est synonyme. C'est que Jésus a eu compassion de cet homme, il a eu pitié de cet homme. Et maintenant, il dit, tu vas partager la pitié que j'ai eue pour toi à d'autres. Et parce que tu vas partager la pitié que j'ai eue pour toi, c'est ma pitié que tu partages aux autres. On va partager la compassion que Dieu a eue envers nous. Qui sommes-nous pour que nous soyons sauvés? Est-ce qu'on est prétentieux, au bout de certaines années, en disant, quand même, j'ai fait des bons choix dans ma vie. Oui, on a fait des bons choix. Mais on sait que c'est souvent par grâce qu'on les a fait, et des fois un peu obligés. D'accord? Si Dieu n'avait pas été là, où serions-nous aujourd'hui? On est incapable de faire quoi que ce soit. Sans lui, on ne peut rien faire. Et donc, Dieu a eu pitié de nous. Moi, qu'est-ce qui me permet, moi, de tenir aujourd'hui? C'est que je sais que quand je souffre, il a pitié de moi. Quand je fais des erreurs, il a pitié de moi. Quand je suis rebelle, il a pitié de moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être sévère, qu'il ne va pas me corriger. Mais je sais que la compassion de Dieu sera toujours avec moi. Dieu a compassion de moi. Dieu m'a vu avant mon salut. Il a vu mes erreurs. Il a vu ma façon de penser. Il a vu qui j'étais dans la chair. Et pourtant, il avait compassion. J'étais sourd. J'étais aveugle. J'étais lépreux. J'étais un samaritain. J'avais pas le droit de citer en Israël, j'avais pas les promesses, j'avais rien. Mais il a eu compassion de moi, il a été ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens me parler. Comment j'aurais su si on m'avait pas parlé? Il a eu compassion. Lorsqu'on évangélise, c'est la compassion de Dieu que l'on communique. Vous aimez vos voisins, vous aimez vos amis, vous avez de la compassion pour eux, donc témoignez. C'est pas pour essayer de leur faire une bonne petite tape sur l'épaule, un bon gueuleton, en disant voilà. Ça, cet amour-là, il y en a qui pensent que c'est le maximum qu'ils puissent recevoir, ils sont peut-être très contents. Mais nous, nous savons qu'il y a un amour qui va au-delà de ça. C'est un amour qui envoie jusque dans la vie éternelle. Le bon repas que je vais faire dans ma cuisine va pas les amener jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité? Ils auront faim et soif. Voyez l'histoire de Lazare et l'homme riche. L'homme riche, il a soif. Il dit, mais si quelqu'un peut me donner un peu d'eau, j'ai soif. Et là, il n'y aura plus de compassion. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y aura plus de compassion. Mais aujourd'hui, Dieu voit la soif des gens. Des fois, ils ne se rendent même pas compte. Et quand il réalise, cet homme, que c'est trop tard pour lui, mais il dit, mais alors, envoie Lazare parler au moins à ma famille, parce que ce que je vis est tellement horrible. Je ne sais pas quel rapport il avait avec sa famille, s'il les aimait ou pas. Mais en tout cas, il est conscient que sa famille est encore en vie et qu'elle, elle peut encore être sauvée. Et donc, il dit, mais alors, au moins sauve ma famille, parce que je ne veux surtout pas qu'ils me rejoignent. Ce lieu est tellement horrible, je ne veux pas que ma famille me rejoigne. Vous savez, la prière la plus intense pour sauver, pour annoncer l'Évangile, c'est la prière de cet homme riche. Envoie Lazare parler à ma famille, un homme qui est dans le séjour des morts. Envoie des gens qui ne me rejoignent pas, parce que moi j'ai soif. C'est un lieu horrible, je ne veux pas que d'autres gens viennent me rejoindre. Il était consumé par le premier amour. C'est l'amour de l'Évangile. Il fallait que la bonne nouvelle soit annoncée à sa famille perdue, même si lui était définitivement perdu. Il avait compassion pour sa famille, parce que lui, il expérimentait l'antichambre de l'enfer. Il n'y était même pas encore. Il était en attente de jugement. Et il est toujours en attente de jugement. Et cet homme a toujours soif. Et ce n'est pas une parabole. Rappelez-vous, une parabole, on ne cite jamais le prénom de quelqu'un. Il n'y a pas de personnage historique. C'est toujours anonyme. C'est un père avec deux fils, par exemple. Parabole de Luc 15. Là, vous avez Lazare qui est nommé, c'est une histoire qui est racontée, il a vécu sur la terre, ensuite il est mort, et il y a Abraham dans l'histoire qui est nommé. Donc ce n'est pas une parabole, c'est quelque chose qui s'est réellement passé, et donc ça se passe encore aujourd'hui. Cet homme, je ne sais pas de quelle manière, physiquement, au niveau de l'âme, j'en sais rien, cet homme a soif. Cet homme a soif. 2000 ans après, il a toujours soif. Et en Apocalypse 20, il va être jugé au jugement du grand trône blanc et il va être lancé dans le lac de feu parce qu'il aura suivi le diable et ses démons toute sa vie. Là où le ver ne se consume point, ne meurt point, où le feu ne se consume point. La compassion de Dieu, la compassion de Dieu, il est mort pour ça. Si l'Église n'a pas ce feu-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier les points d'évangélisation. Les marionnettes, les mimes, il faut que ça sorte bientôt. S'il faut refaire des tracts, on a besoin de gens qui créent des tracts où ça annonce l'Évangile d'une manière comique, pas comique, intellectuelle, peu importe, mais que ça touche les gens. Eh bien, au lieu de vous amuser à faire n'importe quoi, prenez votre ordinateur, faites un nouveau tract. Et passez-le en commission, entre guillemets, à l'Église et on verra, on prendra votre tract. C'est-à-dire, soyez créatifs, apportez des choses à l'Église. Le but, c'est de ne pas oublier le premier amour. Vous savez, Jésus, il a eu comme ministère de guérir, de restaurer, de couvrir, de sauver, de nourrir ceux qui ont faim, de faire entendre la voix à ceux qui sont sourds, de montrer la lumière à ceux qui sont aveugles, de leur donner des autorités à ceux qui n'en ont plus, des bergers à ceux qui n'ont pas de berger. Il y a le berger Jésus-Christ, mais les gens ont besoin de bergers spirituels, de conducteurs spirituels. Mes amis, c'est un appel. Ça demande parfois des sacrifices, mais la clé, est-ce qu'on est prêt à redonner la compassion que nous avons reçue ? Jésus, il est ému de compassion. Que ça soit notre mandat pour cette année. Prions. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Et aide-nous à ne pas oublier notre premier amour. Je te demande vraiment de nous aider à être créatifs et obéissants pour que la bonne nouvelle soit répandue autour de nous. Et si peut-être Ben, vous pensez à quelqu'un ou à plusieurs personnes, des membres de votre famille, des voisins, des amis, des collègues. Simplement maintenant, priez pour eux maintenant et demandez à Dieu qu'il vous aide à communiquer la vérité. Seigneur, tu es la vérité, tu veux qu'elle soit communiquée, tu veux qu'elle se répande. Aide-nous à le faire, Seigneur. Aide-nous à même peut-être faire l'impasse sur des pans de notre vie pour être focalisés sur cette bonne nouvelle que nous-mêmes avons reçue. Que serions-nous, Seigneur, aujourd'hui si on ne l'avait pas entendue? Et Seigneur, comme il est dit là dans ce passage qui nous a servi de texte ce soir en Matthieu, on va le relire. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Est-ce qu'il n'y a pas des ouvriers dans cette salle? Posons-nous tous la question. Soyons des ouvriers dans la moisson.